Edith Wharton, Le bilan. Chapitre 1. En sortant de la gare par un froid soleil de printemps, Lizzie West prit la longue rue qui monte sur les hauteurs de Saint-Cloud. Tandis qu'elle gravissait la côte, elle observa que les glycines verdoyaient déjà aux grilles des jardins, et que le lierre sur les murs montrait ses jeunes pousses. Et pour la centième fois, elle se dit que jamais elle n'avait vu printemps si beau. Elle se rendait chez les Deering, tout en haut de la colline, et chaque pas du trajet lui était cher et familier. Elle suivait ce chemin 5 fois par semaine pour aller donner sa leçon à la petite Juliette, fille de l'artiste américain Vincent Deering. Juliette était depuis 2 ans déjà l'élève de Lizzie. Et depuis 2 ans, la jeune fille avait, un jour après l'autre et par tous les temps, monté la côte, tantôt abritée d'un parapluie sous l'averse, tantôt posant sa pauvre ombrelle de percale aux ardeurs de la canicule, tantôt par une neige épaisse qui trempait ses bottines rapiécées, ou une bise aiguë qui perçait sa mince jaquette. Tantôt, parmi des tourbillons de poussière funestes aux fleurs du pauvre petit chapeau qui devait faire tout l'été. Au début, cette ascension lui avait semblé ennuyeuse, à l'égal de ses autres corvées professionnelles. Lizzie n'avait pas le feu sacré. Elle s'occupait avec exactitude et en toute conscience de ses élèves, mais elle ne volait pas à ses leçons. Un jour, cependant, quelque chose s'était passé qui avait changé la face de sa vie. Et depuis lors, grimper chez les Deering était devenu pour elle comme de voler en rêve sur les routes du ciel. Son cœur battait plus vite à ce souvenir. Ce n'était pas l'agitation de la crainte ou du remords, mais l'émotion délicieuse de la possession. Elle couvait un trésor dont nul ne pourrait la priver. Au mois d'octobre passé, un jour après la leçon, elle avait demandé à parler au père de Juliette. C'était toujours à M. Deering qu'il fallait s'adresser quand il s'agissait de Juliette. Mme Deering vivait sur sa chaise longue à lire du matin au soir des romans que la cuisinière ou la bonne allait choisir pour elle dans le fond graisseux d'un cabinet de lecture. Et il était admis dans la maison qu'on ne devait pas la déranger au sujet de l'enfant. M. Deering s'occupait de sa fille par accès plutôt qu'avec suite. Mais du moins, il se laissait aborder et écoutait d'un air aimable et un peu absent, en tortillant sa longue moustache blonde, quand Lizzie lui faisait ses doléances ou réclamait des cartes ou des cahiers. « Oui, oui, naturellement, vous avez parfaitement raison. Il approuvait toujours. Parfois même, il tirait de sa poche une pièce de 5 francs qu'il jetait négligemment sur la table. Mais plus souvent, il se bornait à dire avec son aimable sourire « Achetez ce que vous voudrez. » Vous le mettrez sur la note, n'est-ce pas ? Ce jour-là, pourtant, Lizzie n'était pas venue demander des cartes ou des cahiers, ni même, comme elle avait été une fois réduite à faire, toute rouge de honte, rappeler à M. Deering la petite note déposée depuis 2 mois sur un coin de son bureau et qu'il avait dû oublier. Ce moment lui avait été assez pénible, bien que le peintre eût fait de son mieux, en galant homme, pour tourner la chose gaiement. Mais sa démarche présente était infiniment plus pénible, car elle venait se plaindre de son élève et dire que, malgré toute son affection pour Juliette, il était inutile, à moins que M. Deering ne pût faire quelque chose, de continuer les leçons. Ce ne serait pas honnête de ma part, ce serait voler votre argent. Et je ne suis pas bien sûre de ne l'avoir pas fait déjà, dit-elle, en riant à demi à travers les larmes qui lui montaient aux yeux. La petite Juliette ne voulait pas travailler, ne voulait pas obéir. Elle se dévoyait, vivait entre la cuisine et la lingerie, n'avait d'intérêt et de curiosité qu'aux événements de l'escalier de service. C'était une curiosité du même ordre qui poussait Madame Dering, claquemurée dans sa chambre pleine d'odeurs de pharmacie, à dévorer les romans du cabinet de lecture ou la chronique mondaine des journaux. Mais comme l'horizon de Juliette n'était pas assez large pour embrasser des objets aussi élevés, son intérêt se concentrait sur les anecdotes que Céleste et Suzanne rapportait du marché, de la librairie. Que ces histoires ne fussent pas toujours édifiantes, les babillages naïfs de la petite fille le montraient trop fréquemment. Par malheur, elles absorbaient son imagination au point de chasser complètement les pensées les plus sérieuses, telles que dates, dynasties et sources des grands fleuves. À la longue, la crise devint si aiguë que la pauvre Lizzie se vit obligée soit de suspendre les leçons, soit de faire appel à l'intervention de M. Dering. Dans l'intérêt de l'enfant, elle opta pour l'alternative la plus pénible. Il lui était désagréable de parler à M. Dering, non seulement à cause de l'humiliation d'avoir à confesser son échec, et de l'humiliation plus grande encore de lui assigner des causes aussi vulgaires, mais aussi parce qu'elle avait honte d'appeler sur elle l'attention d'un esprit occupé dans des sphères supérieures. M. Dering était fort absorbé en ce moment. Il avait un tableau en train. Élisie pénétra dans l'atelier avec le sentiment de gêne d'un profane qui trouble un rite sacré. Il lui sembla presque entendre un bruissement d'ailes qui se referme lorsqu'elle approcha. Et alors, comme tout avait tourné autrement, rien peut-être ne serait arrivé si elle n'avait pas été si sotte, elle qui pleurait si rarement, qui était si fière de la raideur stoïque avec laquelle elle gouvernait la petite volière gazouillante qu'était son cœur. Mais si elle avait pleuré, c'est qu'il l'avait regardée si gentiment, si doucement, et qu'il avait été, elle l'avait senti, si honteux et peiné cependant. Leur peine à tous deux était causée non par les paroles qu'elle avait dites, mais par ce que ces paroles impliquaient et sous-entendaient, par le mot unique que ni l'un ni l'autre n'avait prononcé. Si la petite Juliette était ce qu'elle était, c'était la faute de sa mère, cette mère qui avait transmis à son enfant ses instincts frivoles et la privée des soins qui auraient réglé ses penchants. C'était un cercle vicieux d'une fatalité si évidente que lorsque M. Dering eut murmuré « Naturellement, si ma femme n'était pas souffrante », tous deux, d'un élan simultané, se rejetèrent à l'envi sur les mauvais exemples de Céleste et de Suzanne. Vous voyez bien, s'écria finalement Dering, raison de plus pour que vous restiez et n'abandonniez pas cette malheureuse à l'influence des domestiques. Mais puisque je ne lui fais aucun bien, gémit l'institutrice. Dering lui prit la main. Mais si, dit-il avec douceur. C'est alors que, tout d'un coup, ne sachant pas quoi répondre, Lizzie éclata en sanglots. « À moi, au moins, vous me faites du bien. Vous rendez cette maison moins triste, » reprit-il. Et, l'instant d'après, elle se vit pressée dans les bras de Dering, qui embrassait son visage trempé de larmes et à qui elle rendait son baiser. Ils s'étaient embrassés. Voilà le fait nouveau. Une pauvre petite institutrice, vivant à la pension Clopin à Passy, qui a de beaux cheveux châtains et des yeux confiants, ne peut guère arriver à 25 ans sans avoir eu quelques banales aventures. Lizzie avait été embrassée à la dérobée une fois par un étudiant indiscret, une autre fois par un vieux barbon de professeur, tandis qu'elle se penchait sur le thème qu'il lui corrigeait. Mais ces privautés, qui déveloutent la surface, n'ont rien à voir avec le cœur. Ce n'est pas le baiser subi, mais le baiser rendu qui demeure. Et le premier baiser de Lizzie avait été pour Vincent Dirigne. À l'instant où elle s'écartait de lui, quelque chose de nouveau s'éveilla en elle. Un sentiment plus profond que la honte et le remords. Un germe engourdi tressaillit au fond de son être et s'éleva d'un élan aveugle vers le soleil. Elle eût sans doute éprouvé d'autres sensations. La honte et le remords auraient peut-être prévalu si elle n'avait pas connu combien Dirigne était bon et tendre, si elle n'avait pas deviné en lui tant de misères et de déceptions. Elle connaissait les déboires de son mariage et elle soupçonnait une désillusion de même ordre dans sa carrière artistique. Lizzie, qui s'était elle-même timidement essayée à la peinture, se sentait suffisamment du métier pour juger les tableaux du Dirigne. Elle les trouvait admirables, mais elle savait que le public était d'un autre avis, ou plutôt qu'il ne s'occupait nullement de l'œuvre de Dirigne. Lizzie crut deviner que le peintre avait eu son heure de célébrité, connu les récompenses officielles, une mention, une médaille. Mais depuis longtemps déjà, la faveur des critiques s'était détournée et il restait dans son isolement hautain. Il semblait incroyable à la jeune fille qu'une nature aussi exceptionnellement riche eût dû, comme elle-même, se soumettre aux vulgarités de l'existence et, comme elle, souffrir la pauvreté, l'obscurité, l'indifférence. Pourtant, elle se rendait compte qu'il en avait été ainsi et que là était le lien merveilleux qui les unissait. Sans leur communauté d'infortune, en effet, comment l'aurait-il discerné dans son obscurité? Et elle revoyait le premier regard des yeux de Dirigne, de ses yeux gris qui auraient semblé moqueurs s'ils n'avaient été si doux. Elle se rappelait tous les détails de cette première rencontre. L'inévitable migraine de Madame Dirigne l'avait empêchée de recevoir la nouvelle institutrice. Et c'est chez Dirigne que Lizzie avait été introduite. Tout de suite, les questions du peintre avaient révélé l'intérêt qu'il prenait à la petite compatriote condamnée à gagner durement son pain si loin du sol natal. Quelle douceur alors de s'épancher. Elle lui avait tout confié, la pauvreté de sa condition, l'avortement de ses rêves artistiques qu'il avait fait échouer à Paris, où elle courait maintenant le cachet. Longtemps après, elle se demandait encore ce qui avait déterminé cette heure d'effusion. Elle s'étonnait d'avoir, elle si timide et si fière, étalé ainsi son âme. Mais à présent, elle ne s'étonnait plus. Elle comprenait tout depuis que Dirigne l'avait embrassée. Ne savait-elle pas, maintenant, que chez lui, la bonté égalait le génie? Telles étaient ses pensées, tandis qu'elle montait la côte sous le frais soleil printanier. Elle songeait aussi à tout ce qui s'était passé dans les mois qui avaient suivi. Cet intervalle lui apparaissait comme une brume dorée, d'où émergeaient çà et là les contours d'un brillant îlot. La brume, c'était la sensation omniprésente de l'amour du maître. Les îlots brillants, c'étaient les journées qu'ils avaient passées ensemble. Ils n'avaient plus jamais échangé de baisers dans la maison du peintre. Lizzie était ombrageuse sur le point de l'honneur professionnel. Mais elle n'eut jamais besoin de repousser Dirigne au nom de la délicatesse. Heureusement, celui-ci comprenait toujours. Là où le manque de compréhension eût risqué d'affaiblir son pouvoir sur la jeune fille. Les jeudis et les dimanches, cependant, elle se trouvait libre et elle prit vite l'habitude de lui consacrer chaque semaine ses deux journées. Elle aimait la peinture, s'y entendait, et jusqu'alors la visite des musées avait été l'unique tache claire dans la grisaille monotone de sa vie. Elle aimait aussi les poètes, les œuvres d'imagination, d'un goût qui avait eu de trop rares occasions de s'exprimer. Et voici que toutes ces aspirations comprimées et refoulées s'élançaient au jour comme des bourgeons qui éclatent. Monsieur Dirigne savait exprimer avec une force et une clarté sans égale les pensées qui vagissaient en elle. Quand elle causait avec lui, c'est comme si elle s'était envolée dans le ciel, sur des ailes éployées, à des hauteurs vertigineuses, d'où elle découvrait nettement les splendeurs et les merveilles du monde. Elle était un peu mortifiée parfois de constater le petit nombre d'impressions définies qu'elle rapportait de ses sublimes excursions. Mais il n'y avait pas à en douter, c'était parce que auprès de lui son cœur battait trop vite et que le sourire de Dirigne faisait à ses paroles comme un long sillage de lumière. Plus tard, lorsqu'elle était calmée, des lambeaux de leur conversation surgissaient dans sa mémoire avec une précision miraculeuse, chaque syllabe comme ciselée, semblable aux ivoires ou aux cristaux dont il lui faisait admirer dans les musées le fini délicat. Mais jamais Lizzie ne put comprendre pourquoi le souvenir de certaines heures était si brouillé et de certaines autres si lucide. Ce jour-là, toutes les images du passé renaissaient avec une vivacité singulière, car il y avait 15 jours qu'elle n'avait vu son amie. Vers le milieu de l'hiver, Madame Dirigne s'était rendue à Saint-Raphaël, chez une parente, où, un mois plus tard, son mari et sa petite-fille l'avaient rejointe. Avant le départ de Dirigne, Lizzie lui avait dit adieu par une après-midi pluvieuse. Ils s'étaient retrouvés dans les couloirs humides de l'aquarium du Trocadéro. Elle ne pouvait songer à le recevoir chez elle. Cela eût été contraire au règlement de la pension. L'austérité calviniste de Madame Clopin n'admettait pas que le père d'une élève vînt voir une institutrice. Surtout lorsque ce père, comme disait Madame Clopin, était encore si bien. Dirigne avait, il est vrai, suggéré une autre solution. Mais au premier mot, Lizzie avait bondi dans un sauvage émoi. Non, non, non. Dirigne, habitué à ses raffinements de scrupules compliqués, la regarda un instant, comme il faisait en pareil cas, d'un air moitié tendre, moitié moqueur, et n'en parla plus. Pour elle, elle vit dans cette acceptation soudaine un hommage délicat rendu à la noblesse qu'il devinait et respectait en elle. Ils continuèrent donc à se rencontrer dans les musées. Quand il faisait beau, ils allaient aussi dans la banlieue. Et là, parfois, dans la solitude d'un bosquet ou d'un jardin désert, leurs baisers se renouvelaient, furtifs et rapides, ou prolongés par une étreinte silencieuse de leurs mains enlacées. Mais le jour du départ de Dirigne, la pluie les avait obligés de rester à couvert, et comme ils erraient dans les galeries de l'aquarium, regardant sans les voir les gros poissons qui aplatissaient leurs têtes grotesques contre les parois de verre, Lizzie se sentit comme un noyer au fond de la mer. Tous ses beaux souvenirs tourbillonnaient au-dessus d'elle, comme les flots ensoleillés de la surface. « Tu ne le reverras plus jamais, plus jamais », disait le bruissement des vagues à travers les dernières paroles de Dirigne. Et quand au coin de la place du Trocadéro, elle lui dit adieu, et fut montée toute grelottante et trempée dans l'omnibus de Passy, les grandes roues grinçantes lui semblaient répéter à leur tour ce même refrain. Plus jamais, plus jamais. 2 semaines seulement s'étaient écoulées depuis ce jour, et voici que Lizzie, légère et joyeuse comme une alouette, grimpait la côte qui menait chez les Deering sous un beau soleil de printemps. En vérité, un cœur aussi faible ne méritait pas tant de bonheur. Et elle se disait que, jamais plus désormais, elle ne douterait de son étoile. Chapitre 2. Le tintement de la cloche fêlée résonna délicieusement jusqu'à son cœur, tandis qu'elle guettait les pas légers de son élève. C'était presque toujours Juliette qui accourait avant la bonne pour ouvrir la porte à l'institutrice. Non qu'elle cherchât par l'effet d'un zèle invraisemblable à hâter l'heure des leçons, mais elle ne résistait pas au désir de voir ce qui se passait dans la rue. Cette fois pourtant, Lizzie, après avoir vainement prêté l'oreille, dut enfin donner un second coup de sonnette, et elle se dit que l'enfant s'était probablement attardé à l'office ou à la cuisine. Lizzie sonna une troisième fois, sans que l'on vînt ouvrir. Alors, prise d'une crainte vague, elle se recula et leva les yeux sur la façade de la maison. Elle vit que les persiennes de l'atelier étaient grandes ouvertes, au lieu que celles de Madame Deering restaient fermées. Sans doute la maîtresse de la maison se reposait après les fatigues du voyage. Mais pourquoi Juliette ne venait-elle pas? Lizzie leva de nouveau les yeux et vit Deering qui s'approchait de la fenêtre. Il l'aperçut et vint ouvrir. Il semblait plus pâle que de coutume et elle remarqua qu'il portait des vêtements noirs. « J'ai sonné et ressonné. Où est donc Juliette ?» Il la regarda d'un air grave, presque solennel. Puis, sans un mot, la conduisit à l'atelier dont il ferma la porte. J'ai perdu ma femme. Elle est morte subitement il y a 10 jours. Est-ce que vous ne l'avez pas lue dans les journaux? Lizzie eut un faible cri et se laissa tomber sur le mauvais divan de l'atelier. Elle voyait rarement les journaux, ne pouvant pas en acheter pour son compte, et ne trouvant jamais l'occasion de jeter un coup d'œil sur ceux que recevaient les pensionnaires plus privilégiés de Madame Clopin. « Non, je n'en savais rien, » balbutia-t-elle. Deering se taisait. Il restait, debout devant elle, tortillant nerveusement une cigarette qu'il n'avait pas allumée, et fixant sur la jeune fille un regard où il y avait de l'hésitation et de l'embarras. Elle aussi se sentait gênée. Après ce qui s'était passé entre eux, elle se voyait incapable de trouver des paroles qui ne sonnassent pas faux ou ne parussent pas un manque de cœur. Enfin, elle soupira en se levant. « Pauvre petite Juliette, est-ce que je ne puis pas aller la voir ?»« Juliette n'est pas ici. Je l'ai laissée à Saint-Raphaël avec les parents chez qui était ma femme. » « Oh !» murmura Lizzie, avec le sentiment vague que l'absence de l'enfant rendait la situation plus difficile encore. Comme leur rencontre ressemblait peu à ce qu'elle avait imaginé. « Je suis désolée pour elle, » bégaya-t-elle. Deering, sans répondre, marcha lentement jusqu'au bout de l'atelier et s'arrêta devant une toile posée sur le chevalet. C'était le paysage qu'il avait commencé l'automne précédent pour le salon de mai. Mais il était resté inachevé. Élisie se demandait s'il y avait seulement touché depuis le jour d'octobre où, debout près du chevalet, elle avait confessé son incapacité à discipliner Juliette. Deering eut peut-être la même pensée, car il eut un petit rire sec et se détourna du tableau en haussant l'épaule. Le silence se prolongeait. Lizzie finit par se dire que, puisque son élève était absente, elle n'avait aucune raison de rester davantage. Deering s'approchait d'elle. Elle se leva et dit avec effort « Alors je m'en vais. Vous me préviendrez quand elle reviendra. » Deering hésita encore, tordant toujours sa cigarette entre les doigts. « Elle ne revient pas, du moins pour le moment. » À ces mots, Lizzie crut défaillir. Tout allait donc être changé dans leur vie. Mais oui, sans doute. Comment avait-elle pu rêver qu'il en serait autrement? Elle balbutia. « Elle ne revient pas? Elle ne sera pas ici cet été? Il est probable que non, puisque nos amis veulent bien la garder. Le fait est que je suis obligée d'aller en Amérique. Ma femme a laissé une petite propriété, quelques sous. Il faut que j'aille voir cela, pour l'enfant. » Lizzie restait debout devant lui, le cœur glacé. « je comprends », répétait-elle, tout en sentant qu'elle comprenait de moins en moins. « C'est bien ennuyeux d'avoir à décamper », reprit Deering, en jetant un regard maussade sur son atelier. Elle leva lentement les yeux sur lui. « Serez-vous longtemps parti ?» demanda-t-elle timidement. « Je ne peux guère savoir, c'est terriblement compliqué. » Il la regarda longuement, d'un air étrange. « J'ai horreur de ce voyage, » dit-il brusquement, comme se parlant à lui-même. Lizzie sentit que des larmes lui montaient aux yeux. Son cœur éprouvait l'émoi particulier que lui causait toujours la voix de Deering. Elle mit la main devant ses yeux, d'un geste mécanique, et au même instant, Deering lui tendit les bras. Elle s'y jeta d'un élan subit, sentant qu'enfin la maison était à lui, qu'elle-même serait à lui s'il le voulait, et que jamais plus la présence obsédante de l'autre femme ne troublerait son bonheur. Il releva sa voilette et couvrit son visage de baisers. « Voyons, petite bête, il ne faut pas pleurer, » dit-il. Chapitre 3. Il sembla tout naturel à Lizzie que Deering, avant son départ, voulut la voir dans un lieu moins public que ceux qu'il fréquentait d'habitude. Elle trouva même, dans le fait qu'il en exprimait le désir, la preuve de sa tendresse profonde et respectueuse. Il était évident qu'un homme du caractère de Deering ne pouvait songer, dans les premiers jours de son veuvage, à s'engager dans une aventure légère. Si donc, à un pareil moment, il fallait à leur propos une atmosphère de recueillement et de calme, cela devait tenir à des raisons qu'elle n'osait se formuler, mais qu'il agitait d'un saint frémissement. Elle ne s'arrêta pas à objecter les convenances. Dans l'état de crise où se trouvait Deering, c'eût été de la dernière vulgarité. Les convenances sont des armes aux mains de l'innocence menacée. Mais être en garde contre Deering. Lizzie consentit donc sans peine à l'accompagner, la veille de son départ, au petit restaurant de la rive gauche où il l'avait prié de dîner avec lui. Et ce fut avec l'émotion grave d'une fiancée qu'elle descendit de son omnibus. Elle n'avait pas permis qu'il vînt la prendre en fiacre pour rejoindre l'élu qui guettait son arrivée au coin du pont de la Concorde. Deering l'accueillit avec la même gravité attendrie, et le maître d'hôtel qui les introduisit dans un salon particulier n'aurait guère pu attribuer au motif habituel leur désir de s'isoler. Deering donna tranquillement les ordres, tandis que sa compagne se tenait, menue et grave, à côté de lui. Certes, elle ne voulait pas que son angoisse intime vînt ternir le bonheur de leur dernière réunion. Elle comprenait que Deering redoutait la tristesse, et elle tenait à lui montrer qu'elle affrontait avec un gai courage l'imminente séparation, et saurait être tout entière à la joie de se trouver près de lui. Mais, comme toujours, elle attendait qu'il donnât le ton. Plus tard, en évoquant ces minutes heureuses, elle en comprit toute l'exquise douceur. Elle n'était pas habituée au bonheur, mais Dirigne avait trouvé le secret de calmer l'inquiétude de son cœur et d'affermir sa foi dans la destinée, dans tous les miracles de la destinée. Par-dessus tout, il imprima en elle la sensation qu'il y avait entre eux un pacte tacite et reconnu, que sa tendresse était une habitude de cœur qui n'avait pas besoin d'être confirmée par des paroles. Tout ce qu'il lui disait par surcroît semblait donc un raffinement de tendresse, la floraison d'un sentiment profondément enraciné. Dans ses dispositions, les instincts de réserve se fondaient. Observer une attitude défensive eût été vulgaire. Seule la confiance était noble. Dirigne aurait pu tirer avantage de cette tendre casuistique du cœur. Mais, après même que le couvert eût été enlevé et qu'ils restèrent seuls dans la petite pièce entresolée, dont l'unique fenêtre encadrait le remous sombre de la Seine où tremblaient des lumières, il sembla demeurer comme elle, sous le charme de mystiques influences. Lizzie le sentit plus profondément encore au long baiser d'adieu qu'il appuya sur ses lèvres et ses yeux. C'était sa fiancée, sa femme qui l'embrassait ainsi, et s'il s'était avisé à cette minute de lui demander sa main, il l'eût presque offensé. Le pacte était suffisamment scellé par leur dernier regard. Elle porta si loin cette pudeur du cœur qu'elle hésita même un instant quand Dirigne lui demanda de lui écrire. Certes, elle écrirait, mais surtout pour répondre aux lettres qu'elle recevrait de lui. Elle appréhendait si fort de l'accaparer, de chercher à prendre barre sur lui. Il serait occupé, absorbé là-bas. Elle avait peur d'écrire à contre-temps, de se montrer indiscrète. Indiscrète ? Il eut un sourire. Comment pourriez-vous être indiscrète, ma chérie, à l'égard d'un cœur sur lequel vous régnez seule ? Il l'attira doucement à lui et, la regardant dans ses yeux brouillés de larmes heureuses, il ajouta, avec la tendre ironie qui lui était particulière, « Ma pauvre petite Lizzie, comme vous savez mal aimer !» Il parut suffisant à Lizzie de repousser l'accusation par un baiser. Mais dans la suite, elle se demanda s'il n'avait pas eu raison. Était-elle réellement froide et formaliste? Et les autres femmes donnaient-elles avec plus de prodigalité et d'abandon? Elle se rendit compte que chacune de ses réticences et de ses délicatesses pouvait passer pour des scrupules égoïstes et des pruderies mesquines. Et à ce jeu, elle employa bientôt toutes les ressources d'une casuistique surabondante. Cependant, les premiers jours qui suivirent le départ de Dirigne s'illuminèrent pour elle d'une douce lumière réfractée, pareille à celle d'un crépuscule d'été. Lui, du moins, ne pouvait être taxé de réserve ni de calcul, et les lettres d'adieu qu'il lui adressa du train et du paquebot retentissaient en elle en longs murmures qui semblaient l'écho de sa présence. Comme il l'aimait, et comme il savait le lui dire. Elle n'était pas sûre de posséder la même habileté. Peu accoutumée à exprimer ses émotions intimes, elle flottait entre l'envie de lui raconter tout ce qu'elle sentait et la crainte que ces détails ne lui parussent ennuyeux ou même ridicules. Elle ne perdait pas de vue cette idée que ce qui était pour elle l'événement capital de son expérience devait paraître un simple épisode dans une existence prédestinée comme celle de son amie aux aventures romanesques. Tout ce qu'elle pourrait éprouver ou raconter serait mis en comparaison avec ce que d'autres femmes lui avaient déjà donné. De tous les points du globe, elle voyait voler vers d'Irigny des lettres passionnées, auprès desquelles ces pauvres petits billets devaient faire bien triste figure. Mais après ces moments, il y avait des heures où elle relevait la tête et osait affirmer sa conviction intime qu'aucune femme n'avait jamais autant qu'elle aimé d'Irigny et n'avait dû trouver par suite de tels accents. Cette conviction en renforça une autre, moins solidement étayée, c'est à savoir que lui aussi, pour la même raison, avait dû trouver de nouveaux accents pour exprimer sa tendresse. Et elle se persuada que les trois lettres qu'elle dissimulait dans son corsage le jour et cachait la nuit sous son oreiller surpassaient non seulement en beauté, mais en qualité, tout ce qu'il avait écrit pour d'autres yeux. À tout le moins, durant les semaines qu'elle les porta sur son cœur, ses lettres lui donnèrent des sensations plus complexes et plus délicates que celles qu'elle avait jamais éprouvées en présence de D'Irigny. Auprès de lui, il semblait toujours à Lizzie être sur une mer brillante et houleuse qui la portait, mais dont l'éclat l'aveuglait. Les lettres, en revanche, lui représentaient un lac paisible sur lequel on pouvait se pencher et apercevoir le reflet du ciel en même temps que la vie aux formes innombrables qui se mouvait et glissait sous la surface des eaux. Elle s'émerveillait par-dessus tout de la richesse que recelait cette vie cachée. Chose incroyable, elle n'en avait eu jusque-là aucun soupçon. Aveuglément, elle avait suivi la petite route étroite de l'habitude. Comme un voyageur qui gravit un sentier un jour de brouillard et tout à coup se trouve sur un rocher au grand soleil, entre l'immensité du ciel et les abîmes des vallées. Le plus étrange, c'est que tous les gens d'alentour, le petit monde de la pension Clopin, semblaient suivre le même morne sentier, uniquement occupés des cailloux qui blessaient leurs pieds, sans pressentir le ciel qui resplendissait au-delà du brouillard. Il y avait des heures d'exaltation, où elle aurait voulu crier ce que l'on aperçoit du sommet, et des heures d'abattement, où elle se demandait pourquoi la chance avait ainsi guidé ses pas, au lieu que d'autres, non moins dignes de bonheur, tâtonnaient et trébuchaient dans l'obscurité. En particulier, elle ressentait une pitié aussi profonde que soudaine pour les deux ou trois autres jeunes filles de la pension Clopin, des jeunes filles plus âgées, plus apaisées, moins vivante qu'elle, et par cela même, plus spécialement désignée à sa sympathie. Saurait-elle jamais? Avait-elle jamais su? Voilà les questions qui la hantaient lorsqu'elle croisait ses compagnes sur l'escalier, qu'elle les voyait en face d'elle à la salle à manger, qu'elle prêtait l'oreille à leur insipide bavardage dans le salon glacial et mal éclairé. L'une de ces demoiselles était suissesse, l'autre anglaise. Une troisième, Andorra Macy, était une américaine des États du Sud qui apprenait le français, avec l'ambition de faire partager un jour sa science aux élèves d'un pensionnat de Géorgie. Andorra Macy était pâle, maigre, flétrie. Elle avait l'accent traînard du Sud. Dans sa conduite, une audace puérile alternait avec des actes d'orgueilleuse timidité. Elle soupirait après les hommages et redoutait les insultes. Et cependant, elle semblait se rendre compte qu'il n'était pas dans son lot d'éprouver l'une ou l'autre de ces sensations extrêmes, mais qu'elle devait se résigner à ne les connaître qu'à travers les expériences de ses amis plus favorisés. C'est peut-être pour cette raison qu'elle portait un intérêt mêlé d'envie à Lizzie West, qui au début l'avait tenue à distance, voyant en elle une morne image de son propre avenir, mais qui maintenant comprenait tout d'un coup à quel point elle était digne de pitié. Chapitre 4. La chambre d'Andorra Macy était contiguë à celle de Miss West, et la jeune Américaine venait souvent se réfugier chez Lizzie lorsque le couvre-feu précipité de Madame Clopin avait chassé les pensionnaires du salon. Certains soirs qu'elle frappait ainsi à la porte de Lizzie, cette dernière, lasse d'une longue journée de leçons, commençait déjà à se dévêtir. Mais elle était dans une trop grande veine d'indulgence pour ne pas crier « Entrez !» À l'instant où Miss Macy franchissait le seuil, Lizzie sentit que la première lettre de Vincent Deering, la lettre écrite dans le train, avait glissé de son corsage. Miss Macy, voyant un papier à terre, se précipita pour le ramasser. Lizzie se baissa également dans un mouvement de jalousie instinctive, mais non pas assez vite pour devancer Andorra. Lizzie comprit alors que son amie avait vu glisser la lettre et brodait déjà là-dessus tout un roman. Elle rougit d'agacement. C'est trop bête de ne pas avoir de poche. Si l'on reçoit une lettre en sortant le matin, il faut la porter dans son corsage toute la journée. Miss Macy leva vers elle un regard attendri. « Votre cœur l'a réchauffé, » murmura-t-elle en lui tendant à regret le billet. Lizzie sourit, car elle savait que c'était la lettre qui avait réchauffé son cœur. Pauvre Andorra Macy, elle ne pourrait jamais savoir. Jamais son sein glacé ne s'enflammerait à un tel contact. Lizzie la regarda avec une douce commisération en déplorant l'injustice du sort. Le lendemain soir, en rentrant, elle trouva Andorra dans le vestibule. « J'ai pensé que vous me sauriez gré de vous remettre ceci en main propre, » murmura la confidente d'un air entendu en remettant une enveloppe à Lizzie. « Je n'ai pas voulu la laisser traîner sur la table avec les autres. » C'était la lettre que Deering avait écrite sur le paquebot. Lizzie rougit jusqu'aux yeux, mais n'en voulut point à Andorra de sa pénétration. Pour rien au monde, elle n'aurait soufflé mot de son bonheur, mais il ne lui déplaisait pas de le voir deviner. Et sa pitié pour Andorra faisait place à la joie d'user de la détresse de la pauvre fille comme d'un miroir où se reflétait sa propre allégresse. Deering écrivit encore une fois en arrivant à New York, une lettre longue, tendre, pleine de regrets, sans précision sur ses projets, très explicite sur son amour. Lizzie était dans le ciel. Chaque syllabe s'inscrivait dans sa chair. Seulement, elle aurait été plus heureuse si Deering avait parlé plus clairement de l'avenir. Cela viendrait sans doute. Il fallait lui laisser le temps de se retourner et d'aviser. Elle comptait les jours qui devaient s'écouler avant qu'elle pût recevoir une nouvelle lettre. Dès le matin, elle descendait furtivement au salon, consultait les journaux et se renseignait sur la date d'arrivée du prochain courrier d'Amérique. Ce jour béni arriva enfin. Elle expédia distraitement sa besogne quotidienne, tâchant de cacher son impatience par les caresses qu'elle prodiguait à ses élèves. Il était plus aisé, dans l'état où elle se trouvait, de les embrasser que de retenir leur attention sur la grammaire. Ce soir-là, arrivée au seuil de la pension Clopin, son cœur battait si violemment qu'elle dut s'appuyer un instant à la porte avant d'entrer. Mais sur la table du vestibule où était déposé le courrier, il n'y avait pas d'enveloppe à son adresse. Elle parcourut les lettres d'une main fébrile et le cœur lui manquait, comme il lui était arrivé parfois en rêve quand elle croyait rouler au bas d'un escalier sans fin. Ce même escalier, au sommet duquel elle avait cru voler lorsqu'elle gravissait la longue côte conduisant à la porte de Dirigne. Une idée la frappa subitement. Andorra avait dû prendre sa lettre et la lui garder. D'un bond, elle fut sur le palier à la porte de Miss Macy. « Vous avez une lettre pour moi, n'est-ce pas ? » dit-elle haletante. Miss Macy la prit dans ses bras. « Vous attendiez une lettre, chérie ?»« Je vous en prie, donnez-la-moi, » s'écria Lizzie, le courroucé. « Mais je n'en ai pas. Il n'y avait pas ombre de lettre pour vous. » « Je suis sûre que si, il doit y en avoir une !» cria Lizzie en frappant du pied. « Mais, ma chérie, j'ai regardé, et il n'y avait rien !» Jour après jour, pendant les semaines qui suivirent, la même scène recommença, avec d'innombrables variantes. Le premier moment d'humiliation passé, Lizzie ne fit aucun effort pour cacher son anxiété à Miss Macy. Et la tendre Andorra fut chargée de surveiller l'arrivée du facteur et d'épier la bonne, coupable peut-être, de négligence ou de malveillance. Mais toutes ces précautions demeurèrent sans effet. Il ne vint aucune lettre de Dirigne. Durant la première quinzaine, Lizzie, pour excuser son amie, inventa les sophismes les plus ingénieux. Elle admirait, plus tard, les raisons qu'elle avait pu découvrir du silence de Dirigne. Par moments, elle allait jusqu'à trouver tout naturel qu'il ne lui écrivit pas. Il n'y avait qu'une possibilité que son intelligence n'admit pas. La possibilité que Dirigne l'eût oublié, que cet épisode se fût effacé de son esprit comme un souffle s'efface d'un miroir. Elle chassait résolument cette pensée, comprenant que si elle lui donnait accès, sa vie n'aurait plus de pivot et qu'elle n'aurait plus alors aucune raison de se lever le matin et de se coucher le soir. Si elle avait eu le loisir de s'abandonner à ses angoisses, elle n'aurait peut-être plus eu la force de les maîtriser. Mais elle devait se raidir et travailler. Il fallait payer la blanchisseuse, puis la note de Madame Clopin, et tous les menus frais avec lesquels, malgré ses habitudes modestes, elle avait à compter. La terreur de la maladie et de ses conséquences l'excitait à travailler pendant qu'elle en avait la force. Elle se rappelait à peine le temps où elle avait vécu libre de ses appréhensions. Elle faisait à présent partie de sa nature, et la maintenait debout quand les autres stimulants lui manquaient. Dans la médiocrité monotone de son existence, la mort n'était pas ce qui la tourmentait. Elle redoutait bien plus la maladie, la possibilité d'être à la charge des autres. Pendant les premières semaines, elle écrivit lettre sur lettre à Dirigne, le suppliant de lui envoyer un mot, un signe de vie, quel qu'il fût. Elle, qui, dès le premier jour, avait évité avec tant de soin tout ce qui aurait pu lui donner l'apparence de réclamer un droit sur son ami, elle s'accusait maintenant d'avoir été trop exigeante, d'avoir essayé d'exercer une sorte de mainmise sur l'avenir de Dirigne. Sans doute avait-elle froissé par quelque manque de délicatesse la sensibilité rétractile du peintre. Elle comprenait, maintenant, qu'elle aurait dû s'en tenir à son rôle, rester la petite amie, l'âme simple où le génie tourmenté aime à trouver un refuge. Au lieu de cela, elle avait dramatisé leur rapport, exagéré sa propre importance, prétendu même, partager avec lui la première place sur la scène, au lieu de se contenter d'être une figurante ou une choriste. Mais tout en se disant que son aventure n'était évidemment qu'un incident sans portée et que pour Dering il ne saurait être autre chose, elle restait convaincue de la sincérité du sentiment éphémère qu'il avait éprouvé. Rien dans sa conduite n'avait dénoté le viveur en quête d'une facile victoire. Pendant un temps, il avait eu réellement besoin de sa présence, et s'il gardait aujourd'hui le silence, c'était peut-être afin qu'elle ne se méprît pas sur la nature et la durée possible de ce besoin. Il voulait lui épargner la douleur d'un espoir chimérique. Aux yeux de Lizzie, l'amour n'allait pas sans la plus grande liberté laissée à l'objet aimé. Elle ne pouvait le concevoir exigé comme un dû ou imposé par une contrainte. S'en expliquer clairement avec Dering devint pour elle une nécessité irrésistible. Et, dans une dernière lettre très brève, elle l'affranchit en termes nets de toutes les obligations sentimentales que ses lettres précédentes auraient pu lui imposer. Dans ces lignes, elle s'accusait, sur un ton légèrement ironique, d'avoir laissé un simple badinage tourné au romanesque. Et elle trouva, pour parler de la fragilité des sentiments tendres, des paroles tellement railleuses ou désenchantées que Dering, en lui répondant sur un autre ton, eût paru jouer le rôle d'un fat ou d'un sentimental. Elle terminait gentiment en souhaitant de voir se continuer entre eux le commerce de bonne camaraderie qu'elle affirmait avoir toujours compris être la base de leur mutuelle sympathie. Cette lettre lui sembla en parfaite harmonie avec l'idée que Dering devait se faire de la conduite d'une femme du monde, et elle éprouva une joie amère à la pensée de lui apparaître pour la dernière fois sous cette forme distinguée. Mais elle ne devait jamais savoir l'effet que l'apparition avait produit, car cette lettre, comme celle dont elle cherchait à pallier l'impression, demeura sans réponse.